Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Votre Santé, Votre Avenir, le magazine santé de VOA Afrique. À la présentation, Nani Totalani. Votre Santé, Votre Avenir de cette semaine aborde la question de la campagne de vaccination contre le choléra en République démocratique du Congo. Cette maladie infectieuse diarrhéique d'origine bactérienne est transmise par voie digestive et sévit le plus en Afrique. Pour en parler, nous nous entretiendrons avec le docteur Gervais Folfac, le point focal du programme des urgences à l'OMS RDC.
En fait, lorsque une personne est contaminée, la personne commence à faire des signes. Il s'agit généralement d'une diarrhée de début buccal qui est caractérisée par les selles liquides, profuses, d'une couleur un peu blanchâtre et parfois des vomissements.
Le docteur Gervais Folfac répondra également aux questions que vous avez laissées sur la page Facebook de VOA Afrique.
Ce que nous demandons aux populations, c'est de respecter les mesures d'hygiène. Il faut éviter de boire l'eau contaminée. Lorsque vous n'avez pas de l'eau potable chez vous, mettez de l'eau avant de boire, il faut se laver les mains avant de manger.
Après cet entretien, nous vous proposerons en seconde partie Carnet de santé avec Linor Moudou.
Santé, votre avenir, l'invité de la semaine.
Comme annoncé, dans cette édition, nous recevons le docteur Gervais Folfac pour parler de la vaccination contre le choléra en République démocratique du Congo.
Bonjour docteur.
Bonjour docteur.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs?
Oui, je suis docteur Gervais Folfac. Je suis le coordonnateur du programme des urgences de l'Organisation mondiale de la santé pour la République démocratique du Congo.
Merci. Aujourd'hui, nous allons parler de la campagne de vaccination contre le choléra qui a démarré récemment en RTC. Mais avant d'arriver à la vaccination, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce que c'est que le choléra?
Oui, le choléra, c'est une maladie diarrhéique qui se contracte généralement par la consommation d'eau ou de nourriture contaminée par le germe du choléra qu'on appelle le vibrion cholérique. Et on peut aussi se contaminer par des mains sales souillées par ce germe.
Quels sont les signes du choléra?
Sur le plan clinique, en fait, lorsque une personne est contaminée, ce que nous on appelle la période d'incubation, c'est-à-dire la période entre la contamination et le début des symptômes et des signes cliniques, cette période peut durer de 2 heures à 5 jours. Lorsque la personne commence à faire des signes, il s'agit généralement d'une diarrhée de début buccal qui est caractérisée par les selles liquides, profuses, d'une couleur un peu blanchâtre, on appelle ça généralement couleur eau de riz, et parfois des vomissements. On doit dire que c'est l'homme qui est vraiment le principal réservoir de ce germe-là. La maladie se transmet soit par les hommes malades, les cadavres aussi, les personnes décédées de choléra transmettent la maladie. Bon, même ceux qui ne sont pas malades mais qui ont des germes peuvent transmettre.
En parlant de nourriture, on a un auditeur de la RDC, Kevin Kaninda, qui veut savoir si toute sorte de nourriture peut transmettre le choléra ou il y a une nourriture spécifique qui peut être à l'origine de la transmission du choléra.
Non, n'importe quelle nourriture peut être source de choléra si la nourriture est contaminée par le germe du choléra. C'est pour ça que dans les zones où il y a le choléra, on demande aux gens de chauffer la nourriture avant de la manger. Parce que la chaleur détruit les germes du choléra. Donc n'importe quelle nourriture peut transmettre la maladie pourvu que cette nourriture soit contaminée. C'est une nourriture froide en principe.
Alphonse Mbouaki, depuis la RDC, veut savoir quand est-ce qu'on procède à une campagne de vaccination. Est-ce que c'est quand il y a l'alerte d'imminence d'une maladie ou quand la maladie a déjà commencé à faire ses victimes?
Je dois dire que la campagne de vaccination, ce n'est pas vraiment la première mesure utilisée pour répondre au choléra. Après, ici, généralement, la réponse au choléra fait par des mesures souvent assez simples, approvisionnement en eau potable des populations, le renforcement des conditions d'hygiène et de salubrité. Les mesures élémentaires d'hygiène telles que le lavage des mains régulièrement, avant de manger, après les toilettes, ça c'est les mesures qu'on doit généralement utiliser pour éviter le choléra. Il faut éviter la défécation à l'air libre, il faut utiliser les latrines. Ça c'est les mesures qu'on utilise le plus souvent.
Quel rôle le vaccin joue-t-il à côté de ces mesures d'hygiène?
Le vaccin est généralement perçu comme une solution provisoire qui doit être administrée en attendant que des investissements soient faits dans le domaine d'approvisionnement en eau, de l'assainissement et de l'hygiène, ou bien parallèlement à ces mesures-là. Donc lorsque ces mesures ne sont pas en place pour éviter que les populations tombent malades ou bien meurent du choléra, on essaie d'ajouter la vaccination en attendant quand même que des mesures durables soient mises en place pour protéger les populations de cette maladie.
Qu'est-ce qui explique la campagne de vaccination que vous venez de lancer en RDC?
En ce qui concerne la campagne de vaccination que nous sommes en train de mener actuellement, je dois dire que le choléra sévit en République démocratique du Congo. C'est un mode endémique. C'est-à-dire qu'il y a les cas presque toute l'année à l'Est. Depuis le début de l'année 2019, nous avons déjà eu environ 11 000 cas de choléra, dont 245 décès en RDC. Comme je disais tantôt, ces cas sont beaucoup plus à l'est du pays.
Dans quelle localité précisément?
On appelle cette province-là la province endémique. Il s'agit de la province du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et du Tanganyika. Donc, face à cela, le ministère de la Santé et puis les autres partenaires se sont mis à répondre à cette maladie. Mais malheureusement, en fait, ça a dû répondre, c'est-à-dire en utilisant les moyens disponibles. C'est-à-dire quoi? La surveillance active des cas, les mesures de prévention dans la communauté, la prise en charge des cas, la recherche active des cas dans la communauté, provisionnement en eau potable là où c'était possible. Donc, on a essayé de le faire, mais on a constaté que malgré tout ça, on n'arrivait pas à contrôler la maladie. Particulièrement dans la province du Nord Kivu, où nous sommes en train de mener cette campagne, on a eu 1500 cas de choléra depuis le début de l'année. Le ministère de la Santé a élaboré un plan de lutte contre le choléra. Et dans ce plan, les différents piliers de réponse que je viens de citer sont prévus, y compris la vaccination de certaines provinces où on sait que c'est difficile d'éliminer le choléra juste par les mesures de prévention. Donc c'est pour ça que le ministère a planifié de vacciner dans ces provinces, parmi lesquelles la province du Nord Kivu.
Le Nord Kivu qui est aussi confronté à l'épidémie d'Ebola.
Et comme vous le connaissez aussi, la province du Nord Kivu fait face à une grosse épidémie de maladie, à virus Ebola depuis août 2018. Il était nécessaire de contrôler rapidement l'épidémie de choléra pour concentrer les efforts sur la réponse à l'épidémie d'Ebola. Voilà un peu tout un faisceau d'arguments qui ont amené le gouvernement et les partenaires de mettre en œuvre cette campagne de vaccination contre le choléra dans la province du Nord.
Quelles sont les couches sociales concernées par cette vaccination?
Ok, la vaccination que nous sommes en train d'effectuer, elle a une cible d'environ 835 000 personnes âgées de plus d'un an qui sont réparties dans 31 aires de santé et 7 zones de santé.
Où sont principalement situées ces zones de santé?
En principe, il s'agit des aires de santé, des zones de santé à risque de choléra. Ce n'est pas tout le Nord Kivu qui est concerné, ce n'est pas toutes les populations qui sont concernées. Généralement, il s'agit des zones de santé qui sont autour du lac Édouard et celles qui sont autour du lac Kivu. Parce qu'en principe, on a constaté que celles-là favorisent la transmission du choléra. Donc, nous avons fait une analyse de risque qui nous a permis d'identifier ces zones de santé. Donc, ces zones de santé, pour ceux qui connaissent la province du Nord Kivu, il s'agit de la zone de santé de Binza, Goma, Karisimbi, Kaina, Kabirizi, Kiroche et Rutshuru. Donc, c'est des zones qui sont concernées par la vaccination.
Quelle est la durée de la campagne de vaccination?
En précis, elle devait se faire en 5 jours. C'est vrai qu'on a eu quelques difficultés au démarrage, dû à des problèmes logistiques et puis aussi dû au retard de pré-marquage.
Quelle méthode utilisez-vous pour couvrir toutes ces zones?
C'est une vaccination qui se fait en porte à porte. Donc, on va de maison en maison pour vacciner les gens. Bon, il fallait d'abord identifier les maisons dans lesquelles on va vacciner et puis le nombre de personnes qui vivent dans ces maisons qui sont éligibles à la vaccination. Et cette activité a pris un peu du retard. Donc, c'est-à-dire qu'on a commencé avec un jour de retard. Au troisième jour, sur les 815 000 personnes attendues, nous avons déjà vacciné 349 000 personnes, 350 000 personnes. C'est une couverture vaccinale d'environ 42%.
Est-ce que les gens acceptent facilement de se faire vacciner?
Nous l'avons eu. Quelques problèmes de résistance au début. Bon, je crois que les populations ont finalement compris que c'était quelque chose d'important pour eux.
Comment le vaccin est-il administré?
Le vaccin se donne par voie orale. C'est pas un vaccin injectable, donc c'est facile à administrer. C'est les relais communautaires. On a environ 1200 relais communautaires qui ont été identifiés et formés. Ils sont en train d'administrer le vaccin dans les différentes communautés.
Nous avons un auditeur depuis Goma, dans le Nord Kivu. Il s'appelle Borwani Dimaro Simplice. Lui veut savoir si dans les symptômes, il y a une différence entre Ebola et le choléra.
Non, ce n'est pas la même maladie. Il n'y a pas de similitude entre les deux maladies, que ce soit par le mode de transmission, que ce soit par les signes. Les deux maladies se transmettent de manière différente. Comme vous l'avez dit, le choléra se transmet par l'eau souillée, la nourriture souillée, alors que la maladie Ebola, la virus Ebola, c'est beaucoup plus le contact de sécrétion d'un malade contaminé par Ebola. Donc, au niveau du germe, ce n'est pas la même chose. Ebola se transmet par un virus, alors que le choléra, c'est une bactérie.
Et en termes de symptômes?
La maladie à virus Ebola, en ce qui concerne les symptômes, c'est vrai, il y a des vomissements aussi, et dans la maladie à virus Ebola qu'on retrouve dans le choléra. Mais évidemment, le choléra, le plus grand signe qu'on retrouve le plus souvent, c'est la diarrhée, qui n'est pas un signe qui est très présent dans la maladie à virus Ebola. Le Ebola, c'est la fièvre. Il n'y a presque pas de fièvre au niveau du choléra. Donc, c'est deux maladies vraiment différentes. Mais quand ces deux maladies sont dans la même communauté, le problème maintenant, c'est qu'il faut répondre à plusieurs épidémies à la fois. Pendant qu'on répond à la maladie, on répond également à l'épidémie du choléra. Ce qui fait qu'il faut beaucoup plus de ressources, beaucoup plus de personnes sur le terrain. Et ce n'est pas facile pour les équipes de santé de répondre à ces deux groupes d'épidémies au même moment.
Alphonse Mbouaki, est-ce qu'il y a une conduite à tenir par la population pour éviter la propagation de cette maladie qui est le choléra?
Oui, ce que nous demandons aux populations, premièrement, c'est de respecter les mesures d'hygiène. Il faut éviter de boire l'eau du lac. L'eau du lac, pour la plupart, est contaminée. Et quand vous n'avez pas de l'eau potable, il y a le chlore, il y a aussi des comprimés à base de chlore qui sont souvent distribués, mais qui sont aussi commercialisés. Il faut traiter de l'eau. Lorsque vous n'avez pas de l'eau potable chez vous, traitez de l'eau avant de boire. Mais je crois dans la ville de Goma, je vois qu'il y a quand même des points d'eau un peu partout. C'est vrai qu'il faut acheter un bidon d'eau, mais vraiment faire l'effort de consommer de l'eau potable. Il faut respecter les mesures d'hygiène élémentaire. Il faut se laver les mains avant de manger. Il faut éviter la défécation à l'air libre.
Juste pour éclairer la lanterne de nos auditeurs, donc faire la défécation à l'air libre, cela signifie faire ses besoins à l'air libre.
Oui, il y a des gens qui n'ont pas de toilettes. C'est-à-dire que dans le village, il y a des gens qui font leurs besoins à l'air libre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de toilettes. Et certains, ils ont des toilettes qui sont dirigées vers des cours d'eau. C'est-à-dire les toilettes débouchent dans des cours d'eau que les gens utilisent pour la vaisselle et tout le reste. Ça, c'est ce que nous appelons le renforcement des mesures d'assainissement.
Une fois que quelqu'un est atteint de la maladie, est-ce qu'il y a des médicaments, il y a un traitement que la personne peut suivre pour guérir?
Oui, l'avantage au moins pour le choléra, c'est que quand on est dépisté tôt, quand on va dans un centre de santé ou bien dans un hôpital un peu tôt, on a presque 100% de chances de guérir. Actuellement, il y a les traitements.
En ce moment-là, à quel traitement le malade est-il soumis?
Le traitement, c'est beaucoup plus la réhydratation. Parce que vous perdez de l'eau, il faut remplacer cette eau. Vous perdez de l'eau par la diarrhée, vous perdez de l'eau par les vomissements. Mais il faut remplacer cette eau. Donc quand on commence à vous soigner tôt, on vous réhydrate. Et puis, il y a aussi des antibiotiques qui sont efficaces contre les germes du choléra. Ces antibiotiques, ça dépend maintenant du type de germe parce qu'il y a plusieurs souches. Donc, quand il y a une épidémie dans une zone, on envoie des échantillons laboratoire. À partir du laboratoire, ils peuvent nous dire quel antibiotique est le plus adapté pour soigner ces populations-là. Les germes sont plus sensibles à quel antibiotique. Et puis, quand on utilise l'antibiotique, c'est généralement efficace, très efficace. Généralement, la doxycycline, la ciprofloxacine, qu'on utilise, mais ça dépend, comme je dis, ça dépend du type de germe, de la souche et du germe dans la localité où il y a l'épidémie.
On a une dernière question qui vient d'Alphonse Mbouaki, toujours la RDC. Il dit pourquoi le choléra apparaît souvent lors des calamités?
Comme je vous l'ai dit tantôt, le choléra survient dans des conditions d'hygiène qui ne sont pas favorables. Alors lors des calamités, qu'est-ce qui se passe? Souvent, on a l'interruption de l'approvisionnement des populations en eau potable. Il y a des maisons qui sont détruites, ce qui fait que les gens commencent, même s'ils avaient de la crise, commencent à desséquer à l'air libre. Alors c'est sans ces conditions là-dedans, il y a la détérioration des mesures d'assainissement. Ce sont ces conditions qui sont favorables à la survenue des épidémies de choléra. On n'a pas d'eau, quand l'hygiène n'est pas bien, quand l'assainissement n'est pas bien, on a de fortes chances qu'une épidémie de choléra survienne. Donc c'est pour ça que lorsqu'il y a une calamité, ce qu'on fait le plus souvent, on surveille le choléra et si possible, on vaccine la population contre le choléra pour éviter la survenue des épidémies.
Quels sont les secteurs qui doivent intervenir dans la lutte contre le choléra?
Mais je dois dire que la réponse contre le choléra, comme vous l'avez constaté, elle est vraiment multisectorielle. Elle n'est pas vraiment une affaire du ministère, bien du secteur de la santé. L'approvisionnement en eau potable, c'est l'affaire de plusieurs secteurs. Il y a le secteur de l'eau qui intervient, il y a les municipalités. C'est-à-dire qu'on fait une hygiène dans les villes, dans les bidonvilles, il faut que les municipalités puissent intervenir. Donc, c'est vraiment la réponse au choléra, elle est multisectorielle et tous les secteurs doivent vraiment s'associer pour pouvoir contrôler l'épidémie de choléra.
Merci, docteur. Un dernier conseil à donner à nos auditeurs?
Je voulais d'abord remercier l'Alliance Gavi qui nous a aidés à organiser cette vaccination. C'est grâce à eux qu'on a eu les fonds opérationnels et puis les vaccins pour pouvoir vacciner cette population. Donc, le conseil que nous pouvons donner aux populations, c'est vraiment pour ceux qui sont ciblés pour la vaccination, qui prennent ce vaccin, qui se font vacciner, ça va les protéger contre cette terrible maladie qui est le choléra. Pour ceux qui ne sont pas concernés, leur demande de continuer à respecter les mesures élémentaires d'hygiène, ça peut les aider à éviter une maladie comme le choléra.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
C'était le docteur Gervais Folfac, le point focal du programme des urgences à l'OMS RDC. À présent, carnet de santé avec Linor Moudou.
Coup d'œil sur l'actualité.
Cette semaine, dans carnet de santé, le cancer du col de l'utérus. Ce cancer qui affecte plus de 68 000 personnes chaque année en Afrique est souvent causé par des infections à papillomavirus humain. transmise en grande partie sexuellement. Comment prévenir le cancer du col de l'utérus? Quels sont les traitements disponibles? Les réponses à vos questions. Le bâillement est-il contagieux? Mystère élucidé dans la rubrique « Vrai ou faux ?» Enfin, que faire pour s'endormir quand on manque de sommeil? Nous avons recueilli votre avis. C'est dans notre prochaine édition de Carnet de santé. Bienvenue à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition de Carnet de santé. C'est la deuxième cause de mortalité par cancer chez la femme dans le monde. Aujourd'hui, nous allons parler du cancer du col de l'utérus. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le cancer du col de l'utérus fera plus de 443 000 victimes par an dans le monde d'ici 2030, dont près de 90% en Afrique subsaharienne. Présentement, c'est plus de 68 000 personnes en Afrique qui sont affectées chaque année, avec près de 50 000 décès par an. Le cancer du col de l'utérus est souvent causé par des infections à papillomavirus humain, transmises en grande partie sexuellement. Pour en savoir plus sur cette maladie, nous avons rencontré le docteur Kiali Ouattara, qui est directeur de l'organisation internationale non gouvernementale JPAIGO en Côte d'Ivoire.
Alors, le cancer du col utérin, c'est un cancer. Et comme tout cancer, c'est une multiplication anormale des cellules du tissu sur lequel le cancer se développe. Donc, c'est une multiplication anormale qui fait que ces cellules sont incontrôlées et c'est un cancer. Et ce cancer, il est dit cancer du col de l'utérus parce qu'il est localisé justement au niveau du col de l'utérus chez la femme.
Parlez-nous des symptômes. Comment est-ce qu'une femme peut reconnaître qu'elle pourrait être susceptible de développer, d'être en train de développer un cancer du col de l'utérus?
Alors, à ce niveau, il faut faire très attention. En général, en gynécologie, tous les signes se ressemblent. Donc, ils ne sont pas forcément imputables au cancer du col de l'utérus. Dans le cancer du col de l'utérus, il y a des écoulements purulents. Il y a comme du pus qui coule. Et dans ces conditions, tous ces signes sont des signes d'appel qui devraient faire que la femme aille en consultation, voir son médecin ou son gynécologue. Mais ce ne sont pas des signes exclusivement significateurs de cancer du col de l'utérus.
Puisque les signes, si vous dites que les signes sont similaires à d'autres pathologies, alors ça sûrement prend du temps avant de détecter ou de diagnostiquer une femme du cancer du col de l'utérus, n'est-ce pas?
Oui, en effet, comme tout cancer, ils évoluent à bas bruit. Et en général, au moment où les signes sont vraiment extérieurs, on est déjà à des phases plus compliquées à prendre en charge. Je ne vais pas dire phase terminale, mais des phases où c'est déjà compliqué et la prise en charge devient très compliquée. Ce qui se passe avec le cancer du col, et c'est ce que je disais, c'est un cancer totalement évitable, c'est le cancer le plus curable. Pour le cancer du col de l'utérus, il y a des signes avant-coureurs. Si nous faisons un dépistage précoce, il y a des signes avant-coureurs qui permettent de savoir que cette dame, dans 10 ans, dans 15 ans, va développer un cancer. C'est là que ça devient intéressant dans la prévention du cancer du col de l'utérus. Lorsqu'on trouve ces signes avant-coureurs, alors on les traite de façon adéquate et on évite à cette dame de développer un cancer dans 15 ans, dans 10 ans.
Mais dans ce cas-là, quelles sont les recommandations? Est-ce qu'il est recommandé à toutes les femmes à partir d'un certain âge de faire
un dépistage? Oui, tout à fait. Il est recommandé à toutes les femmes à partir d'un certain âge, je vais dire en âge de procréer, de faire un certain nombre d'examens. C'est traité, la dame peut éviter facilement de faire un cancer du col de l'utérus dans les années à venir.
Ok. Alors, quelle analyse faites-vous de l'accès aux soins pour les patientes en Afrique subsaharienne, de façon générale, s'agissant du traitement du cancer du col de l'utérus?
Cancer du col de l'utérus. En dehors même du cancer du col de l'utérus, l'accès aux soins dans nos régions, vous le savez, est très limité. L'accessibilité géographique. Et ensuite, l'accessibilité économique et financière. Je veux bien aller pour le soin, mais le soin se trouve à la capitale. Pour ce qui concerne le cancer, les centres d'oncologie dans nos pays, en général, c'est à la capitale. et même les laboratoires qui pourraient aider à faire des diagnostics avancés sont dans les chefs-lieux des régions, dans les grandes villes du pays. Donc ce n'est pas accessible à toutes les femmes dans les régions reculées dans nos pays. Et l'accessibilité financière, c'est-à-dire que là aussi, même si le soin existe derrière ma maison, ouais, il y a un coût. Et ce coût devrait prendre aussi le coût du transport, même pour venir au centre de santé, pour chercher à avoir les soins adéquats selon le problème. Donc c'est la même chose pour le cancer du col de l'utérus. C'est en général, mais pour le cancer du col de l'utérus, c'est la même chose. Un autre problème, c'est l'information elle-même. Les femmes qui ne sont pas dans les grandes villes peuvent ne même pas avoir accès à l'information que, attention, tel signe et tel signe devrait me faire consulter puis être référé pour arriver jusqu'aux soins de qualité.
Donc, quelles sont les solutions dans ce cas-là?
La sensibilisation, l'éducation des populations, que chaque femme sache qu'elle devrait pouvoir bénéficier d'au moins un examen visuel pour chercher les lésions précancéreuses, au moins une fois tous les deux ans, oui, ou trois. Mm-hmm. Si elle est séropositive, au moins une fois chaque année. Chaque femme devrait pouvoir, autant que possible, bénéficier d'un frottis là où cela existe et si elle ne fait pas l'inspection visuelle. Et aussi le personnel soignant, les médecins, les infirmiers, les sages-femmes devraient être sensibilisés à effectuer le diagnostic précoce des lésions précancéreuses, donc du col, comme une activité de routine dans le courant normal d'une consultation de médecine.
Dans la rubrique MedActu, les chercheurs de l'Université Collège de Londres développent présentement une nouvelle technologie pour aider les médecins à détecter le cancer du côlon et les polypes intestinaux à un stade précoce. Cela afin de garantir les meilleures chances de guérison aux patients. Le système appelé Odin Vision utilise une combinaison d'intelligence artificielle et de technologie spatiale. Reportage Zlatika Hawk.
Le cancer du côlon est le troisième type de cancer le plus commun dans le monde. Et le plus tôt il est détecté, plus le patient a des chances de se rétablir. Cependant, le diagnostic habituel appelé colonoscopie ne détecte pas toujours tout.
Nous manquons 1 à 5 polypes durant la colonoscopie et pour la deuxième plus grosse cause de cancer menant à la mort au Royaume-Uni, c'est important.
Les scientifiques disent que l'intelligence artificielle peut voir une image entière. Elle ne peut rien manquer ni être distraite.
Pendant que la vidéo en direct est retransmise à notre système, celui-ci prend l'image, séquence par séquence, l'analyse avec ce qu'on appelle un réseau neuronal artificiel et essaie d'identifier l'endroit où se trouvent ces polypes en regardant des choses comme les motifs dans les images, les différentes couleurs des tissus.
Les scientifiques d'Odin Vision espèrent que ce programme révolutionnaire sauvera des centaines de vies. Les survivants du cancer du côlon espèrent qu'une nouvelle technologie de diagnostic sera bientôt disponible.
J'espère que ce logiciel sera bientôt disponible pour que ma famille puisse savoir rapidement que tout va bien ou non par rapport à ma propre santé.
Odin Vision organise un essai clinique sur les 12 prochains mois et s'attend à ce que les premières versions de cette technologie soient déployées dans les deux années suivantes.
C'est un phénomène bien souvent irrésistible. Nous voyons quelqu'un bâiller et nous bâillons. D'où la question, bâiller est-il un phénomène contagieux? Selon une étude publiée dans la revue Current Biology, la raison pour laquelle il est difficile d'étouffer un bâillement lorsque quelqu'un le fait près de nous réside dans la région du cerveau responsable de la fonction motrice. Selon des chercheurs britanniques, l'envie de bâiller lorsque nous voyons quelqu'un d'autre le faire est un bâillement contagieux. Cela est dû à un type d'éco-phénomène, c'est-à-dire une imitation automatique involontaire. Pour cette étude, les chercheurs ont observé 36 adultes à qui il était demandé de regarder des clips vidéo montrant d'autres personnes en train de bâiller. Après avoir mesuré leur activité cérébrale, les résultats ont montré, entre autres, que les participants ne pouvaient s'empêcher de bâiller. De plus, le désir de bâiller augmentait lorsqu'ils essayaient de résister. Et voilà.
L'insomnie. Beaucoup d'entre nous l'ont déjà expérimenté. Être dans son lit la nuit sans pouvoir s'endormir, c'est assez commun. Nous avons souhaité connaître ce que vous faites pour vous endormir dans ce cas. Voici ce que vous nous avez confié à Lagos, au Nigeria.
Qu'est-ce qui me fait dormir vraiment? Je n'aime pas les films, donc je regarde des films quelquefois. Souvent des films d'action. Quelquefois, je les trouve ennuyeux, donc je peux m'endormir. Ou alors, j'avoue que je peux prendre des comprimés si c'est difficile de m'endormir. Mais récemment, vu la circulation à Lagos, quand j'arrive à la maison, j'ai juste besoin de dormir.
Je prends un verre de vin. Quand je prends un verre de vin, avant même de me mettre au lit, je suis déjà endormi. Parce qu'un verre de vin agit comme un sédatif. Je ne parle pas pour les autres, mais pour moi, cela m'aide beaucoup. Je ne prends pas d'autres sédatifs ou médicaments pour dormir.
Souvent, quand il est difficile pour moi de dormir, je peux lire un roman. Il y a des moments où je peux me lever du lit pour aller regarder un film au salon et je m'endors. Il y a des moments où, avec mon téléphone, j'explore l'Internet et je m'endors. C'est ce que je fais de façon générale pour pouvoir dormir.
Le plus facile pour moi, c'est le stress. Oui, le stress. Vous savez, dans cette partie du monde, particulièrement au Nigeria, nous sommes multitâches d'une façon ou d'une autre. Donc, une fois que je commence à m'occuper de plusieurs choses à la fois, je deviens très stressé. Et lorsque je suis stressé, la prochaine chose, c'est le sommeil. Par exemple, je vais jouer au foot, faire du sport, faire des activités en famille ou m'occuper de certains problèmes de famille. Une fois que je me rends dans mon salon, c'est parti.
Selon les instituts nationaux de santé des États-Unis, NIH, il y a plusieurs facteurs qui peuvent aider à mieux dormir, y compris, tout d'abord, votre chambre. Elle doit être sombre, calme et fraîche. Ensuite, évitez la caféine, l'alcool et les situations stressantes à l'approche du coucher. Aller au lit et se lever à la même heure chaque jour aide également. Enfin, l'électronique. Oui, l'électronique. Pas du tout conseillé avant d'aller au lit. Donc ordinateur ou tablette, téléphone portable et même la télévision. Oui, la télévision, ce sont des choses à éviter dans la chambre à coucher. Écoutons ce que cet expert a à nous dire à ce sujet.
Il s'agit de l'ensemble de votre style de vie, pas de raccourcis, pas de mode, pas de régime à la mode, pas de machine à la mode, pas de gadget à la mode. Vous devez absolument avoir un lit correct, une bonne nuit de sommeil, vous devez bien manger et vous devez vous assurer de faire de l'exercice régulièrement dans la journée.
Dans notre prochaine édition de Carnet de santé, nous parlerons de la réanimation cardio-pulmonaire ou RCP. Si vous avez des questions ou pour vos réactions, rejoignez-nous sur notre page Facebook VOA Afrique ainsi que sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter @linormoudou. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.
Fin de votre santé, votre avenir. Nous nous sommes entretenus avec le docteur Gervais Folfac sur la campagne de vaccination contre le choléra en République démocratique du Congo, mais aussi sur cette maladie infectieuse diarrhéique d'origine bactérienne qui sévit le plus en Afrique. Ensuite, nous vous avons proposé Carnet de santé avec Linor Moudou. Ce magazine santé a été réalisé grâce au concours de Cheikh Thiero et de Dan Crafton qui étaient à la console. À la présentation, Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir. Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.
un meilleur musée.